si, à l'instant même, dans quelques secondes, un lion devait apparaître dans la salle de culte, quelle serait votre réaction? Si il arrive là dans quelques instants, on va voir quoi comme réaction? Prier. Très bonne réaction. Donc, prier, qu'est-ce qu'on peut faire, Alice? On n'entend pas. Crier, alors crier, ça rime. Essayer de fermer la porte. Il y en a qui vont avoir peur. Peut-être que Jean courageux va dire non, c'est bon. Je gère, voilà, donc on va avoir certains qui vont être courageux, il y en a qui vont peut-être faire preuve de réflexion, non c'est tout à fait impossible qu'un lion arrive de A plus B, donc c'est complètement impossible, donc ceci est une illusion d'optique, ceci n'est pas un lion, qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre?
On va pas rester planté à un endroit.
Alors il y en a qui vont courir, il y en a d'autres qui au contraire sous l'effet de la peur vont peut-être rester complètement paralysés. Voilà. On voit qu'on peut avoir différentes réactions à un même événement. À l'inverse, si tout à l'heure au téléphone, vous recevez un coup de téléphone vous annonçant que cette fois-ci, non pas une mauvaise nouvelle, le lion qui rentre, mais une bonne nouvelle. Si on vous appelle pour vous dire que vous avez gagné au loto, alors, quelle réaction au téléphone? Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle, hein, mais quelle réaction? Louis.
Réflexion.
Comment ça? Parce que je n'ai jamais acheté un ticket.
Alors, j'ai pas acheté un ticket, tac, tac, tac. Donc derrière, il y en a un qui va se dire, ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque, c'est pas possible, qui êtes-vous, blablabla, blablabla. Quelle réaction on peut avoir? Ouais, la joie, simplement, super, cool. L'auto, ah bon, combien? Je vous envoie mon RIB. Bref, la même... Là, on réagit tous différemment aux événements de la vie. Que ça soit des mauvaises nouvelles, que ça soit des bonnes nouvelles, nous tous, pourtant on est voilà, cavaillonnais ou un peu plus loin, mais pourtant on va avoir des réactions différentes. Et on a vu là dans les lectures qui nous ont été faites que face à la mort de Jésus, on a vu des réactions très très différentes. Tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Certains se sont moqués de Jésus. Certains l'ont insulté, certains ont pleuré, certains, je pense à l'apôtre Pierre, ont eu honte et sont allés se cacher. Certains, peut-être, n'ont rien fait, ont continué de faire leur jardinage à côté de Golgotha comme s'il ne se passait rien. Il s'est passé plein de réactions différentes. Mais il y a même le soldat romain qui, lui, confesse aussi, qui à ce moment-là, qui vit ça et qui confesse « tu es le Fils de Dieu ». Comment on aurait réagi, nous, non pas s'il y avait le lion, non pas le loto, mais comment on aurait réagi si on avait été à Golgotha à ce moment-là? Et plus surprenant encore, comment auriez-vous réagi si ce même Jésus crucifié est mort, si ce même Jésus dont on vient de parler, celui qui est dans le tombeau depuis 3 jours, si on venait à vous dire qu'il était ressuscité? Là, il y a une heure, dimanche matin, il y a une heure, il est ressuscité. Comment auriez-vous réagi? Auriez-vous réagi avec le peur, avec la peur, avec le doute, avec la détresse? Auriez-vous réagi avec joie? Auriez-vous réagi avec bonheur, avec foi? Plein de réactions différentes. Et dans le chapitre qu'on va regarder ensemble ce matin, Jean chapitre 20, dans Jean chapitre 20, on va voir plein de réactions différentes de la part des proches de Jésus suite à sa résurrection. On va voir différentes réactions et on va surtout voir que par rapport à leur réaction initiale, toutes les personnes que l'on va rencontrer, au début, quand elles ont une première réaction, et puis après elles ont su évoluer, elles ont su avancer. Et face à la résurrection, donc on va voir différentes réactions, mais on va aussi voir et surtout une même invitation à la foi, à la repentance, à la confession et à la joie. Et on va regarder ce matin, les enfants, les plus petits-enfants, vous allez rester avec nous pour le premier des personnages. Après, vous irez à côté avec Gay. Et pour le premier personnage, on va regarder ce matin à Pierre, on va regarder à Jean, on va regarder à Marie, on va regarder aux disciples... Et on va regarder à Thomas et on va voir leur réaction. C'est parti ? Et je vous invite à lire les 10 premiers versets de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. On n'est pas sur un lion qui apparaît de la porte, mais on est sur une scène à peu près tout aussi invraisemblable. Hein. On est à peu près dans le même niveau de... Waouh. Le dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Alors, c'est pas encore les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais on assiste ici à un beau sprint entre Pierre et Jean. Jean, qui c'est le fameux autre disciple. Quand il parle de lui-même, il dit pas moi. Il dit l'autre disciple, et en fait, on comprend que c'est lui. Donc là, on a un beau sprint entre Pierre et Jean pour savoir qui va le premier, et on en apprend donc que Jean courait plus vite que Pierre. Je sais pas si c'est une information intéressante. Si un jour vous rencontrez Jean au paradis, ne faites pas un sprint contre lui, ne tentez pas la course, a priori, il a de l'énergie dans les jambes. En tout cas, plus sérieusement, les deux disciples arrivent au tombeau, et ils contemplent la scène comme un inspecteur de police contemplerait une scène de crime, relevant tous les détails. Pour l'instant, il touche rien, mais il regarde tous les détails, la pierre, les bandelettes, et cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Les bandelettes, elles ont été roulées correctement par terre. Bon, si c'était un vol, hein, je sais pas si vous êtes fait déjà cambrioler, mais quand on se fait cambrioler, les voleurs, ils ne prennent rarement le temps de laisser correctement les petites tout en place. Hein. Là, ça ne ressemble pas à un vol. Les bandelettes auraient disparu, elles auraient été arrachées par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble à un cluedo un peu. Hein. Où est passé Jésus? Ça ressemble à un cluedo. Les deux disciples, ils sont bouche bée et ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas encore la scène. Et Jean, il est assez honnête. Au verset 9, on l'a lu. Il admet qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait déjà répété maintes et maintes fois. Jésus leur avait dit, ça se compte en plus de 10 fois, il leur avait dit, le Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Ils étaient prévenus. Pourtant, Jean admet qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore percuté. Il n'avait pas encore compris. Alors le parent que je suis, et les parents que vous êtes peut-être, savent très bien qu'avertir des enfants et leur dire 20 fois qu'il ne faut pas faire ci et qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça, ça ne suffit pas à faire passer l'idée. Et là c'est pareil, Jésus leur a dit 10 fois, 20 fois qu'il allait ressusciter. Pourtant quand ils sont face au tombeau vide, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Les disciples avaient encore le cœur, j'ai envie de dire, un peu dans le brouillard, un peu dans l'incertitude. On parle souvent du cœur des pharisiens qui était dur, ça c'est clair, mais le cœur des disciples était encore un petit peu dans le brouillard et ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait dit pourtant maintes et maintes fois. Et finalement, l'étincelle, elle arrive de l'apôtre Jean. Alors Jean, il a le bon rôle. Non seulement c'est lui qui a gagné le sprint olympique, mais c'est aussi lui qui gagne à ce cluedo matinal. C'est lui qui comprend ce qui se passe. Verset 8, il vit et il crut. Non, non, ce n'est pas un vol. Non, ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas un miracle de la médecine. Non, ce n'est pas une erreur d'adresse ou de GPS qui l'aurait amené au mauvais endroit. Non, ce n'est pas une blague. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Christ est ressuscité. Christ, il est vivant, comme il l'avait dit à de multiples reprises. Christ est ressuscité et c'est la seule explication plausible. Il n'y a aucune autre explication que la résurrection de Jésus. Hier soir, au groupe de jeunes à Carpentras, on a pris la peine de réfléchir à toutes les autres hypothèses qui ont été avancées pour essayer d'expliquer pourquoi le corps de Jésus n'était plus là. Il n'y en a aucune qui tient la route. Christ est ressuscité, il est bel et bien vivant. Personne n'a pu l'en empêcher, même pas les gardes, même pas la pierre. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose de physique, de réel, d'historique. Et Jean, il voit la scène et il croit. Il comprend enfin que Christ est ressuscité. L'étincelle est là, Pierre et Jean, ils passent de l'incompréhension, tu peux appuyer Rémi, Pierre et Jean, ils passent de l'incompréhension à la foi. Leur première réaction a été l'incompréhension, bouche bée devant la scène de crime. Et maintenant, leur réaction évolue. Ils ne restent pas sur leur incompréhension initiale, mais ils passent de l'incompréhension à la foi que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Jésus, face à Pilate, face à Hérode, on l'a lu tout à l'heure, il avait dit plusieurs fois « Je suis le roi des Juifs ». Et c'était ça qui était écrit d'ailleurs sur sa croix. Pierre et Jean comprennent que Jésus est plus que le roi des Juifs. Il est plus puissant que les Romains. Il est plus puissant que la haine. Il est plus puissant que le péché. Il est plus puissant que la mort elle-même. Il est plus que le roi des Juifs. Il est le roi des rois. Et c'est ce que Pierre et Jean sont en train de comprendre. Il est le roi des rois. Il est plus que le roi des Juifs. Il est le roi des rois. Est-ce que vous connaissez le cantique 850 « Christ est roi » ? Alors je ne sais pas si c'est Pierre et Jean qui l'ont composé. A priori non, de nouveau. Mais c'est en tout cas, c'est le cantique que je vous invite à chanter. Je vous invite à faire une pause dans la prédication. Aujourd'hui, on va avoir une prédication morcelée avec des cantiques. Et je vous invite à s'émerveiller de la grandeur de Christ, qui est non pas seulement le roi des Juifs, mais qui est le roi des rois. Vainqueur de la mort, vainqueur du péché. Et je vous invite à faire une pause et à prendre ce beau cantique ensemble. Deuxième réaction, deuxième type de réaction face au tombeau vide, la détresse. Et je me permets de lire donc les versets suivants, 11 à 18. Et cette fois-ci, on va faire la découverte de Marie de Magdala. Pas Marie la mère de Jésus, c'est Marie de Magdala. Verset 11. « Cependant, Marie se tenait près du tombeau et elle pleurait. Et tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Et pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as pris, et j'irai le prendre. » Verset 16, Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et elle dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père, vers votre père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit cela. On s'arrête également ici pour l'instant. Deuxième type de réaction, donc la détresse. C'est le cas de Marie de Magdala qui n'arrive pas à retenir ses larmes, ses pleurs, et elle accuse je ne sais qui d'avoir volé le corps, de l'avoir déplacé. Le corps de celui qui l'avait délivré de sept démons. nous dit la Bible. Le corps de celui qu'elle avait suivi, le corps de celui qu'elle a aimé, le corps de celui en quel elle a cru. Et là, non seulement Jésus est mort, mais son corps a disparu. C'en est trop pour Marie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Imaginez-vous, vous perdez un proche, vous perdez un parent, vous perdez un ami, et les pompes funèbres vous appellent pour vous dire qu'ils ont perdu le cercueil, qu'ils ont perdu l'urne. Comment vous réagiriez ? Non seulement j'ai perdu tel parent, tel proche, mais les pompes funèbres m'appellent pour me dire que le cercueil, je ne sais pas, il n'est plus là. Imaginez-vous ça. Marie, elle pleure toutes les larmes de son corps, c'en est trop pour elle. Et la disparition du corps, elle qui était déjà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est fini. Mais en plus de ça, le corps a disparu. Si on voit Jésus comme un super enseignant, si on voit Jésus comme un super prof de morale ou d'éthique, si on voit Jésus comme un magicien ou un faiseur de miracles, si on le voit comme un guérisseur, alors sa mort après 3 années, elle arrive trop tôt. Ah, c'est dommage, ce Jésus semblait faire du bon boulot. C'est dommage, on aurait bien resté faire une 4e, une 5e année. Et si on ne comprend pas que la mort de Jésus était le but ultime de sa mission, alors elle arrive trop tôt cette mort-ci. Elle arrive trop tôt, ça s'arrête trop tôt. C'est un gâchis. Et si en plus, le corps disparaît, alors là, c'en est beaucoup trop. Si on ne peut plus se recueillir sur la sépulture de Jésus, alors là, c'en est trop. Alors les fans de Johnny Hallyday vont à Saint-Barthélemy au cimetière pour aller voir le tombeau. Les adeptes de Bouddha, ils vont au cimetière de Nagoyama. Les musulmans peuvent aller voir le tombeau du prophète Mahomet à Médine. Et si les chrétiens, ils ont nulle part pour aller voir Jésus, alors là, c'en est trop pour Marie qui pleure toutes les larmes de son corps. Est-ce qu'on aurait réagi différemment ? Je ne sais pas. Mais voilà que 2 hommes en blanc, et puis un drôle de jardinier, arrivent et lui parle. Et il suffit que ce drôle de jardinier l'appelle par son prénom pour qu'elle reconnaisse la voix et qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. De nouveau, l'étincelle. Marie reconnaît la voix de son maître comme une brebis reconnaît la voix de son berger. Rabouni, ce qui veut dire maître. Ce ne sont plus des cris de détresse, ce ne sont plus des cris de larmes, mais c'est un cri de joie, un cri de bonheur. Marie passe de la détresse au bonheur. Elle passe de la détresse au bonheur. Et on comprend que Marie, elle a peut-être souhaité toucher Jésus, le retenir, rester avec lui, se remettre à le suivre, à l'aider, à recommencer comme avant. Jésus lui dit : « Ne me retiens pas. Ma mission a changé. Ne me retiens pas. » La mission est différente. Non, Jésus ne va pas refaire un tour en Judée et en Galilée pour faire des longs sermons. Non, il ne va pas refaire le tour du lac ou le tour de Jérusalem pour prouver son autorité et sa divinité. Son autorité et sa divinité ont été 1000 fois prouvées par ce qui vient de se passer. Il n'y a plus besoin de faire le tour de la Judée ou la Galilée. Sa mission est accomplie. Elle a changé maintenant. Si Jésus devait mourir, s'il devait être mis à mort et ressuscité le 3e jour, ce n'était pas pour le plaisir d'attirer l'attention des médias, ce n'était pas pour être dans Jérusalem Match, ou je ne sais quoi, c'était pour offrir sa vie en rançon, en échange de la nôtre. Voilà quel était l'objectif, en échange de la vie de Marie, de Pierre, de Jean et de la nôtre. On a vu ces derniers mois, on a lu plusieurs fois l'épître, on est en train de parcourir l'épître aux Galates, que l'apôtre Paul a écrit aux Galates, et Paul explique 1000 fois comment Christ, pourquoi Christ a été maudit pour que nous soyons bénis. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. C'était ça sa mission, et il l'a expliqué mille fois. Les enfants, ils aiment s'échanger des choses. Ils aiment s'échanger des cartes. Je les ai prises dans votre chambre ce matin. Les enfants aiment s'échanger des cartes. Tiens, moi j'ai cette carte-là, toi t'as celle-là, des cartes Harry Potter, des cartes Pokémon. Et on fait des échanges. Est-ce que celle-là, la tienne, a la même valeur que la mienne? Ou celle-là, je ne l'ai pas, je la veux. Et ils échangent les cartes. C'est une vraie passion d'enfant. Moi, je faisais la même chose, pas avec des Pokémon, mais avec des... C'était des Pog à l'époque. Je jouais avec ça, ou les billes, ou peu importe. On échange les choses. Ce que Christ a fait, ce n'est pas seulement un échange à deux cartes équivalentes. Mais il a donné, il nous donne sa vie, et il prend notre mort. Alors, ce n'est pas vraiment un échange équilibré, hein. C'est pas vraiment équilibré. C'est pour ça qu'on parle de grâce qui nous est faite. La mort qui aurait dû être la nôtre, il la prend et nous donne en échange sa vie. C'est pour ça qu'on parle de grâce. Et voilà quelle était la mission de Jésus. Et voilà pourquoi ça ne sert à rien pour Marie de chercher à retenir Jésus, à lui dire « on recommence comme avant ». Non, tout est accompli. Tout est accompli et une nouvelle ère s'ouvre. Et la mission de Jésus désormais est accomplie. Et plus que jamais, et c'est le cantique que je vous invite à chanter, à prendre de nouveau une respiration, plus que jamais, en Jésus seul est notre espoir, notre force, notre lumière, notre vie et notre salut. C'est ce que je vous invite à chanter dans un sens avec Marie de Magdala, qui devait avoir peut-être aussi ces mots-là sur ses lèvres à ce moment-là. Troisième personnage, troisième réaction, et je lis les versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, donc ce soir, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et après leur avoir dit cela, il montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et on s'arrête de nouveau ici. Alors Christ est ressuscité, dimanche matin, c'est le plus grand jour de l'histoire. C'est le plus beau jour de l'histoire. Christ a vaincu la mort, c'est la plus belle des victoires. Et qu'est-ce qu'on fait le soir d'une victoire? On fait la fête le soir d'une victoire en finale de Coupe du Monde, de foot. Si c'est 2018 et qu'on est français, qu'est-ce qu'on fait le soir? On fait la fête. Et si c'est 2022 et qu'on est argentin et qu'on aime le foot, bon, c'est pas ton cas, mais t'es argentin, on est censé faire la fête. Et on peut être franco-argentin et on peut, voilà. On est censé faire la fête. Et donc, de ce que je comprends bien, les disciples, ils devraient être en train de faire la fête, là, non? C'est le plus beau jour de l'histoire. Ouais. Mais non, messieurs les disciples sont enfermés dans une pièce et la porte fermée à clé pour être sûr que les Juifs ou les Romains ou je ne sais qui ne les trouvent, sait-on jamais. Et face à la résurrection, la première réaction des disciples, c'est la peur. Ça fait maintenant 3 jours qu'ils sont apeurés, mais même la résurrection ne suffit pas pour l'instant à les apaiser. La peur les paralyse. Alors bon, c'est triste, mais ce n'est pas le moment de leur donner des leçons. Nous aussi, des fois, notre courage peut être vacillant. Nous aussi, des fois, au moment... Alors pourtant, on le sait que Jésus est ressuscité, on le sait qu'il est le roi des rois, on le sait, mais des fois, au moment de témoigner à notre voisin, à notre patron, nous aussi, le courage peut nous faire défaut. Alors ne leur jetons pas la pierre. Mais en tout cas, n'empêche que les disciples... À ce moment-là, ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Le Saint-Esprit, qui nous remplit de force, de courage et de fierté. À ce moment-là, le don du Saint-Esprit ne leur a pas encore été accordé. Et justement, si Jésus apparaît aux disciples dans cette pièce, s'il entre miraculeusement au milieu de cette pièce fermée, ce n'est pas seulement pour donner de ses nouvelles, pour savoir comment ça va, le moral, les affaires, mais c'est pour les investir d'une nouvelle mission qui est la leur et qui est la nôtre désormais. Il le dit, être envoyé parmi les nations, annoncer le pardon de Dieu et être témoin de la paix que Dieu veut offrir à tous. Et devant cette mission quasi impossible d'un point de vue humain, Jésus leur offre le plus beau des cadeaux, le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et il leur souffle le Saint-Esprit. Alors à la Pentecôte, en acte 1, acte 2, des premiers chapitres, le don du Saint-Esprit, il est public. Il est pour tous, il est public, mais ici, en petit comité, en tout petit comité, Dieu, Jésus, offre déjà le Saint-Esprit au plus proche de ses disciples, de manière privée. Et déjà, dans l'Ancien Testament, on avait vu certains hommes, Josué, Salomon, qui avaient reçu d'abord un mandat, une mission, d'abord en privé, avant que ça soit officialisé de manière publique. Quoi qu'il en soit, les disciples passent de la peur à la joie et de la paralysie à l'euphorie de commencer la plus belle des missions portées par l'Esprit de Dieu lui-même. La grande mission commence. La grande mission commence. Un jour, grâce à cette mission, grâce à la grâce de Dieu, un jour, tout genou fléchira. Un jour, toute langue confessera que Jésus est vainqueur, que Jésus est Seigneur. Et c'est ce que je vous invite à proclamer, à chanter. Que Jésus s'est humilié, que Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu et que dans tout l'univers résonne ce puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue. Et on a fait le culte des nations la semaine dernière, on a célébré Dieu dans toutes les langues. Mais toutes les langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Et je vous invite à chanter cela avec les disciples et ensemble. Quatrième et dernier personnage, les versets donc 24 à 29 qui clôtureront cette découverte. On va à la rencontre de Thomas, donc appelé Didyme, l'un des 12, qui n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous et si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, toujours, et il se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dernière partie, dernier personnage, dernière réaction typique face à la résurrection, le doute, le scepticisme, la crainte de se faire arnaquer. Un peu comme avec le coup du téléphone et du loto, là, tout à l'heure. La peur de se faire berner. C'est peut-être votre réaction face à la résurrection, et c'est la réaction de bon nombre de nos concitoyens incrédules. Et c'est en tout cas celle de Thomas. Malgré le témoignage de Pierre, malgré le témoignage de Jean, malgré le témoignage de Marie, malgré le témoignage des disciples, cette histoire de résurrection ne serait-elle pas une farce, un poisson d'avril ? J'ai besoin de voir cela de mes propres yeux, se dit Thomas. S'il suffisait de voir une chose pour y croire et pour agir en conséquence, ça serait. Si la vue était un sens infaillible qui faisait prendre à notre cerveau les bonnes décisions, ça se saurait. Les pharisiens ont vu plein de miracles. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu plein de guérisons. Bon. Est-ce que ça a suffi ? Bof. Et ils ont constaté également, eux, que la résurrection de Jésus, ils ont vu le tombeau vide. Ils ont été incapables de sortir le corps ailleurs. Est-ce que ça a été suffisant pour les convaincre ? Bof, hein ? S'il suffisait de voir une chose pour y croire et pour agir en conséquence, ça se serait. Les gens, si vous faites un sondage dans la rue, les gens disent ne pas croire en Dieu, en Jésus, car ils ne le voient pas. S'ils le voyaient, est-ce qu'ils se tourneraient vers lui ? Est-ce qu'ils se repentiraient ? Est-ce qu'ils demanderaient pardon ? Est-ce qu'ils proclameraient son nom ? J'en doute. J'en doute malheureusement. Les évangiles nous montrent que toute la Galilée ni la Judée du 1er siècle ne s'est malheureusement pas repentie, alors qu'elle a eu le privilège de voir Jésus de ses propres yeux. Et je crains que le Cavaillon du 21e siècle ne ferait guère mieux. S'il suffisait de voir pour croire, ça se serait. Le problème n'est pas dans les yeux. Le problème, il est dans le cœur, et c'est à l'intérieur que les gens sont aveugles. Et d'ailleurs, Jésus en parle souvent. Il dit « Vous êtes aveugles », alors que les gens disent « Non, on n'est pas aveugles. » Non, si, vous êtes aveugles. C'est à l'intérieur, ce n'est pas un problème de vue, ce n'est pas un problème d'opticien, ce n'est pas un problème de voir Jésus ou non. Je crains que même si Jésus revenait à Cavaillon aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose pour certains. Et les gens, ils aiment prendre exemple sur Thomas, sur saint Thomas, comme ils l'appellent. Ils aiment prendre exemple sur saint Thomas. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, tu sais, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors ça, c'est l'argument avec ça, c'est bon, le débat est clos. Ils oublient trois choses. Et des fois, je m'amuse à... Ça m'est arrivé au boulot déjà de m'amuser avec un collègue à rebondir sur sa citation. Bon, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas vu saint Thomas. Donc ils croient à la citation de quelqu'un qu'ils n'ont pas vu. Donc déjà, c'est contradictoire. Deuxième chose, Jésus ne félicite pas forcément Thomas pour sa réaction. Hein. Bon, il est sympa, il ne lui fait pas de reproche. Il ne lui fait pas de reproche. Jésus, il est doux. Mais bon, il ne le félicite pas forcément pour son incrédulité. Hein. Donc, prendre exemple sur saint Thomas, ce n'est pas forcément judicieux. Et la dernière chose qui est la plus importante, c'est que Thomas a été l'auteur d'une des plus belles confessions de foi et d'une des plus belles proclamations de la Seigneurie et de la divinité de Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors j'aimerais bien que toutes les personnes qui s'appuient sur la citation de saint Thomas, comme il l'appelle, puissent en arriver à cette même conclusion. Mon Seigneur et mon Dieu. Et si seulement, tous ceux qui avaient vu Jésus avaient pu faire cette même confession de foi, ça aurait été extraordinaire, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À tous ceux qui n'ont pas vu Jésus de leurs propres yeux, à nous qui n'avons pas vu Jésus de nos propres yeux, Jésus fait pour autant une promesse formidable au verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui ont vu Jésus. Le bonheur est réservé à ceux qui ont cru en Jésus, qu'ils l'ont vu ou non. Et cette promesse s'adresse à vous, s'adresse à nous, même si nous sommes nés 2000 ans trop tard, même si nous sommes nés dans le mauvais pays. Ben, le même bonheur nous est accessible que les disciples, que Thomas, non par la vue, mais par la foi. Et il s'agit du même bonheur pour celui qui croit. Ce n'est pas un sous-privilège. Thomas passe du doute à la confession. Il passe du doute à la confession. Et Dieu, si vous croyez par la foi qu'il est votre Seigneur et votre Dieu, il vous accordera le même bonheur qu'à Thomas. Il vous équipera du même esprit. Il vous donnera la même paix. Il vous donnera la même force. Et il vous confiera la même mission qu'à ses disciples. Peu importe si vous n'avez pas vu Jésus de vos propres yeux. Peu importe si nous n'avons pas vu Jésus, nous croyons en lui, nous avons foi en lui et nous sommes heureux. Et la Bible nous dit la promesse qu'un jour, nous pourrons voir Jésus. Pas aujourd'hui, mais un jour, nous verrons Jésus face à face. Nous le verrons dans son règne à la droite du Dieu le Père. Et si on voit ça dans l'Apocalypse, nous le verrons un jour. C'est notre espérance et c'est notre espoir. En attendant ce beau jour, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En conclusion, et j'arrive à la fin. En conclusion, face à la résurrection de Jésus, on a vu plein de réactions différentes dans ce passage de Jean 20. On y a vu de l'incompréhension, on y a vu de la détresse, on y a vu des pleurs, on y a vu du doute, mais on y a aussi vu de la foi, du bonheur, de la joie, de la confession. Ma conclusion, elle est donc simple. Et vous ? Et vous ? Comment allez-vous réagir encore aujourd'hui face à la résurrection de Christ ? Comme Pierre et Jean ? Comme Marie ? Comme les disciples ? Comme Thomas ? Peut-être comme les quatre un peu à la fois ? En tout cas, chers amis, ne restez pas sur votre réaction initiale. Sur votre peur initiale, sur votre doute initial, sur votre incompréhension initiale. Tous les disciples, toutes les personnes ont su évoluer. Alors sachez passer de l'incompréhension à la foi, de la peur à la joie et du doute à la confiance. Et en attendant, si différentes réactions sont possibles face à la résurrection, Dieu nous adresse, vous adresse une même invitation en ce jour de Pâques. La même invitation que Pierre et Jean. Une invitation à toujours mieux comprendre les Écritures, à toujours mieux comprendre comment les Écritures nous parlent et nous annoncent le Messie. Cette invitation est pour Pierre et pour Jean, elle est également pour nous. Qu'est-ce que vous êtes en train actuellement de lire et de découvrir dans la Bible ? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir, de connaître la Bible par cœur et d'avoir tout compris ? Jamais. Dieu nous invite, à, comme Pierre et Jean, à toujours se mettre à discerner dans l'Écriture ce qui nous parle du Messie. Dieu nous donne la même invitation qu'à Marie. Une invitation à considérer Jésus non pas comme un pote, mais comme un maître. Rabouni, comme un maître, à toujours plus se mettre à son écoute et à trouver notre bonheur en lui. Et l'invitation, la question est, dans quel domaine de votre vie Jésus doit-il redevenir votre maître ? Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel Jésus ne serait pas tout à fait maître ? Il est celui qu'il nous faut écouter et obéir. Dieu nous invite ce matin à la même invitation que les disciples, une invitation à saisir, à comprendre la grande mission qu'il nous confie, c'est-à-dire annoncer son pardon à tous et à toutes. L'invitation donc, la question donc, est à qui allez-vous ces prochains jours parler du pardon que Dieu offre en Jésus ? À qui allez-vous annoncer le pardon de Dieu ? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur de le faire. Le Saint-Esprit est avec vous. N'ayez pas peur. Et enfin, la même invitation que pour Thomas. Une invitation non pas à croire par la vue, mais par la foi. Et si ce matin, je me permets, si vous ne croyez pas complètement en Dieu, si vous ne croyez pas complètement en Dieu, si vous avez encore un peu de doute, comme Thomas, qu'attendez-vous pour faire le grand saut dans la foi ? Qu'attendez-vous pour faire ce saut dans la foi ? Il n'y a rien à perdre, rien à perdre. Il y a tout à y gagner, en particulier un bonheur que seul Dieu peut donner. Face à la résurrection, donc différentes réactions, mais une seule et même invitation pour tous. Quelle sera votre réaction ? Je vous laisse avec cette question et je vous invite à la prière ensemble, un temps de prière communautaire par lequel nous voulons aussi s'exprimer à Dieu en réponse. Amen.